Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le pain, quoi de plus familier que le pain? Le pain, cet aliment de base de notre humanité, notre pain quotidien. Or, le pain que nous mangeons aujourd'hui, j'entends dans notre monde occidental, est devenu pire que du pain rassis d'une certaine manière. Quoi? Scandale que cette affirmation est pourtant un exemple pour commencer entre une bouteille de coca et une barre chocolatée, la baguette, tenez-vous bien, tiendrait le haut du podium en termes d'indice glycémique. Mais alors notre pain quotidien serait-il le signe d'une société occidentale malade, gavée, d'un monde pris dans la rapidation? Comme dit le pape François, cette sorte de course en avant, c'est un peu la conviction de mes invités de ce matin. Pour cette dernière émission Vivante Église, en tous les cas avec moi, je vous expliquerai, chers auditeurs, cette émission sur le pain, car tout part de là. Comme tout y finit, n'est-ce pas? Le pain, cet aliment pas comme les autres, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. Avec comme invité autour du plateau, Adriano Farano, vous êtes ancien journaliste, fondateur de Pain et Vivo, une boulangerie naturelle à Paris, auteur d'un ouvrage que l'on va parcourir à grands pas avec nos auditeurs, « Je ne mangerai pas de ce pain-là », paru aux éditions Rouergue. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec nous par téléphone puisque vous êtes à Paris. Est avec nous en plateau, lui en chair et en os devant moi, Benoît Ournon. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes propriétaire associé de la boulangerie Terramère. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, donc pour cette émission un peu originale sur le pain en ce vendredi où on s'autorise des digressions et des détours vers des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que vous travaillez à produire et à commercialiser du bon pain. Ça paye pas de mine, mais on va voir derrière tout l'enjeu qu'il y a. Alors on va commencer avec vous, Adriano Farano, au regard de votre livre et puis du temps que vous avez à nous consacrer essentiellement au début de cette émission. Vous avez donc écrit ce livre, « Je ne mangerai pas de ce pain-là », et à vous lire, tout a commencé par quelque chose d'assez trivial qui arrive à de plus en plus de gens, si j'ai bien compris, une sorte d'intolérance au gluten. Et vous êtes dit, en tant qu'Italien, je ne pouvais pas me résigner au sans gluten. Expliquez-nous le début de cette aventure et de cette enquête que vous avez fait.
Oui, tout à fait. Je faisais du pain à la maison, comme beaucoup de gens. J'en étais assez fier. Et puis, un jour, je me rends compte, en fait, que des gens me disent, non, mais tu sais, tu devrais passer au sans gluten, vraiment. Le gluten de nos jours n'est plus ce que c'était, c'est très mauvais pour la santé. Et là, je dis, non mais attends, tu es en train de me dire que je dois renoncer du coup aux tagliatelles de ma grand-mère, à la pizza de mon copain à Naples, de ce bon pain que je fais, tu m'enlèves le pain, tu m'enlèves le gluten, tu m'enlèves ma culture, mon histoire, notre identité. Et là, petit à petit, ça me met quand même la puce à l'oreille. Et comme je suis ancien journaliste, j'ai travaillé au service étranger du Figaro, à Courrier International, et j'ai fondé un média européen qui s'appelle Café Babel. Mais j'étais à l'époque, pour tout vous dire, je vivais dans la Silicon Valley. J'en avais un peu marre des écrans et j'ai trouvé dans le pain un peu un refuge, un peu presque un exercice cathartique. Donc j'étais très attaché à cette pratique de faire du pain à la maison. J'ai commencé à prendre le taureau par les cornes. Et j'ai mené une véritable enquête. Cette enquête, donc, vous la retrouvez en librairie. C'est le livre que vous avez cité, « Je ne mangerai pas de ce pain-là », aux éditions du Rouergue. Et petit à petit, j'ai eu envie de mettre la main à la pâte pour de bon. Et j'ai donc ouvert une boulangerie naturelle qui s'appelle Pain et Vivo à Paris, qui propose justement un pain qui fait du bien.
Alors, allez-y, attendez, on va y revenir à ce pain qui fait du bien. C'est vrai qu'un livre sur le pain, on ne s'attend pas à trouver un chapitrage comme celui-là, de la cueillette à l'éprouvette, urgence sanitaire. Ce pain qui fait du bien, c'est presque un détour culturel ou une aventure culturelle que vous nous faites vivre. Je vous propose, dans le temps qu'on a, que surtout vous nous ouvriez les yeux sur l'urgence sanitaire qu'il y a derrière, et le modèle agricole, voire industriel, et puis après que vous nous racontiez, quelque part un peu dans le désordre par rapport à vos chapitres, combien la pratique du pain remonte à bien plus loin qu'on ne le pense. Si on commence par l'urgence sanitaire, vous rapportez une autre conversation. Cette fois, c'est un jour où on vous a parlé d'un blé qui s'appelle le T80. Qu'est-ce qu'un blé
Voilà.
T80 et qu'est-ce
Ça n'existe
que,
pas.
qu'est-ce que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, on va dire, pour nous, de ce qu'il y a derrière nos baguettes?
Voilà, en fait, l'histoire est très simple. J'étais sur le marché de la Croix-Rousse à Lyon et je commençais déjà à comprendre, à y voir un peu plus clair. Et du coup, je demande quelle était la variété de blé à partir de laquelle la farine qui avait été transformée en pain, sur laquelle elle s'est basée. Et donc, le boulanger me dit, ah bah, c'est un blé T80. Et en fait, T80, ça indique le type de mouture. Donc, ça n'a rien à voir avec le blé. À la limite, vous pouvez même moudre des pois chiches en T80, vous voyez, parce que finalement, c'est ce qui reste des oligo-éléments, donc des matières minérales, après avoir porté à très haute température une farine. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la calcination. Bref, c'est assez technique, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on est perdu. On demande à connaître la variété de blé. On nous répond sur le type de farine. En fait, il faut garder à l'esprit que quand on parle du pain, il y a trois éléments qui sont fondamentaux à comprendre et qui sont en fait déconnectés très souvent et dont les boulangers ne sont pas au courant. Le premier, c'est le type de blé. Alors, vous avez, pour simplifier, deux grosses familles, les blés modernes et les blés anciens. Les blés modernes, c'est ce qui représente 99% des blés aujourd'hui. Ils sont de taille très petite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez un champ de blé en général, c'est très petit. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de pesticides, de désherbants, parce que sinon les mauvaises herbes leur feraient de l'ombre, et surtout des fertilisants, parce que ce sont très peu riches en azote. Ce qui fait du blé moderne aujourd'hui l'une des céréales la plus polluante au monde. Monsieur
Alors
Bella, je ne sais pas si...
pardon de vous couper, hein, parce qu'on ne se voit pas, mais ce sont
Oui,
aussi
oui.
des blés hybrides, c'est ça? Est-ce que vous pouvez
C'est
rappeler?
ça.
C'est un peu des blés mutants, quelque part.
Exactement, c'est-à-dire c'est une mutation qui a été induite par l'homme, non pas par un phénomène de modification génétique, mais par un phénomène de hybridation génétique. Et qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé chercher au Japon, des variétés de blé naine et on les a mélangées en gardant le génodynamisme. Pourquoi? Parce que lorsque la plantule du blé elle est très petite, elle va se tenir plus facilement droite et donc il va moins avoir tendance à tomber, ce qui fait augmenter les rendements. Ce qui fait que par exemple aujourd'hui vous plantez 1 hectare en blé moderne en France, vous obtenez en moyenne 7,5 tonnes de blé. Vous plantez ce même hectare avec des blés anciens, vous avez en moyenne 1 tonne, 1,5 tonnes quand ça va bien de blé ancien. Ce qui explique d'ailleurs le prix élevé de notre pain et des pains en général aux petites épeautres ou d'autres variétés anciennes. Donc ça, c'est pour ce qui est du blé. Ensuite, ce blé, vous le transformez en farine, d'accord? Donc là aussi, vous avez deux typologies. Vous avez la mouture à lamelles de pierre, qui est la mouture historique qui nous définit en tant qu'Homo sapiens néolithique. Néolithique, ça veut bien dire nouvelle pierre, néos-lithos. Et ensuite, vous avez la mouture au cylindre métallique, qui a été, elle, inventée au XIXe siècle, qui aujourd'hui représente 99% de la mouture. Problème, c'est qu'avec le cylindre métallique, vous éliminez la partie du grain de blé la plus intéressante nutritionnellement. Alors qu'avec la mouture à lamelles de pierre, qui est donc les enveloppes du blé et le germe. Pourquoi on a fait ça? Parce que les consommateurs, là il n'y a pas de complot, hein, ce n'est pas l'industrie, c'est les consommateurs qui ont demandé un pain blanc. D'ailleurs, aujourd'hui vous parlez aux vieilles personnes, ils sont très contents d'avoir du pain blanc, pour eux c'est du progrès. En fait, c'est un leurre, parce que le pain blanc, plus il est blanc, moins il est intéressant nutritionnellement.
Alors, Adriano Farano, vous êtes, comment dire, vous êtes extrêmement prolixe et puis y a plein de choses sur lesquelles on a envie de s'arrêter parce que ce livre est extrêmement riche. Je m'arrêterai juste peut-être au risque pour vous d'être un peu caricatural, mais c'est une manière d'entraîner les auditeurs avec nous qui sont peut-être en ce vendredi matin loin de ces réalités. On trouve plein de choses dans votre livre, entre autres un dessin. Qui est le plus sucré? Et donc on voit une bouteille de soda, alors c'est peut-être pas du coca, mais ça y ressemble, une barre chocolatée, et puis la baguette blanche. Et puis un petit peu plus loin, vous citez Emmanuel Macron qui laisse entendre que la baguette française devrait être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais que c'est en termes plutôt de patrimoine mondial de l'hyperglycémie qu'il faudrait classer la baguette. Expliquez-nous.
Bah oui. Alors déjà, expliquons qu'est-ce que c'est l'indice glycémique. Alors l'indice glycémique mesure la vitesse avec laquelle les sucres, lorsque vous mangez un aliment, ils vont gagner les voies sanguines. Plus c'est rapide, moins c'est bon. L'indice glycémique se mesure de 0 à 100. Or, si vous mesurez l'indice glycémique du pain blanc, donc de la baguette, on est à 95. L'indice glycémique du coca, il est à 63. D'accord ? C'est déjà très élevé, mais la baguette est encore plus élevée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'élément de base, l'aliment de base aujourd'hui de notre consommation, plébiscité par 95% des Français avec pas moins de 100 grammes par jour, d'accord ? Il a un indice glycémique plus important que le Coca-Cola. C'est encore plus de la malbouffe que du Coca-Cola. Alors, la question pourrait être pourquoi ? Et là, en fait, je reprends mon fil de tout à l'heure. Le pain, c'est le blé, la farine et la fermentation. On a parlé du blé, on a parlé de la farine. Laissez-moi juste dire un mot sur la fermentation, parce qu'elle a à faire avec cet indice glycémique.
Allez-y.
Aujourd'hui, vous prenez 99% des pains, ils ont de la levure. D'accord ? La levure, c'est des petits cubes qui contiennent une seule, un seul type de levure, qui existe déjà aussi dans le levain naturel. Sauf que c'était parmi toutes les 200 typologies de bactéries et de levures qui sont dans le levain naturel, la plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a prélevée et on est arrivé à la reproduire artificiellement en laboratoire, la mettre dans un petit cube très sympathique, très compact qu'on peut retrouver au supermarché ou alors dans l'industrie. Et hop, on s'est dit, génial, parce qu'au lieu de passer 3-4 heures pour faire lever le pain, c'est une heure. D'accord ? Donc, c'est génial, c'est formidable. Sauf que cette levure, ce n'est pas de sa faute, c'est un phénomène naturel. En fait, elle n'arrive pas, alors qu'elle est très efficace par ailleurs, pour faire lever le pain très rapidement, elle n'arrive pas à baisser l'indice glycémique. Ce qui fait que vous prenez une excellente farine, moulue très bien à la meule de pierre, etc., mais vous allez rajouter de la levure, même si vous mettez un peu de levain, d'accord, et ben vous allez avoir un pain hyper glycémique. Alors... Qu'est-ce que ça fait ? Ça nuit aux diabétiques, évidemment, ça peut les tuer. Ça fait prendre du poids, et puis il y a un risque d'obésité. Donc, cet aliment, un aliment sacré qui a un indice glycémique supérieur au Coca-Cola. C'est juste incroyable.
Qui est comme le symbole de la malbouffe, vous dites, encore plus que d'autres, et on ne citera pas de marque.
Ah bah oui, c'est alors... la pointe de l'iceberg d'un conglomérat que j'appelle le conglomérat agro-boulanger, qui a transformé cet aliment sacré dans un poison.
Alors, Adriano Farano, dans votre premier chapitre, vous intitulez de la cueillette à l'éprouvette, votre premier sous-chapitre, Homo sapiens au fournil. Vous faites donc une digression historique, on va dire, au début conséquente. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas sur une explication exhaustive, mais vous avez entre autres cette expression, je voudrais que vous la mettiez en perspective. Vous laissez entendre que Homo sapiens aurait été d'une certaine façon, non pas un cueilleur-chasseur, mais aussi un cueilleur-boulanger.
Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que la panification était un phénomène extrêmement récent et que c'était seulement depuis les Égyptiens qu'on était capable de fabriquer du pain. En fait, on a d'abord découvert sur le site de Shubakia, je crois, en Cisjordanie, une panification qui remonte à avant le néolithique. Donc,
14 000 ans, vous dites, oui.
Voilà, 14 000 ans, merci, parce que j'avais oublié, j'aurais dit 16 000. Mais puis surtout, dans les Pouilles, en Italie, un site il y a 32 000 ans, dans lequel on aurait fait un pain d'avoine, parce que le blé n'existait pas encore. Et le blé, ça remonte, le plus loin que ça remonte, c'est il y a environ 10 000 ans, et le point d'origine, selon le botaniste russe Vavilov, ce serait les pentes du volcan Karaga en Turquie.
Donc ça c'est les débuts. Donc ce qui veut dire que contrairement à l'idée que l'on s'en fait, enfin certes on imagine que le pain quand même date, mais on peut dire que c'est quelque part vraiment le premier aliment de l'Homo sapiens.
C'est le premier aliment de l'Homo sapiens, pas dans l'absolu bien évidemment, mais le premier aliment qui a permis à notre espèce de stocker de l'énergie par donc le stockage du blé de façon extrêmement efficace, de moudre ce blé avec donc des nouvelles techniques en utilisant la pierre, ce qui étymologiquement et historiquement définit la période du néolithique, néoslithos, et puis qui a permis par le biais donc du pétrissage, et moi j'hésite pas à parler de pétrissage de communauté, donc de faire un pain, donc on pétrit le pain, mais par ce biais-là, puisque le pain n'est pas un aliment égoïste, c'est impossible aujourd'hui. Il y a encore la mode des petits pains, de la baguette, tout ça, ça renie complètement l'histoire du pain. Le pain, c'est des grosses pièces. C'est pour ça aussi que, pour moi, la baguette à l'UNESCO, c'est vraiment c'est un scandale, parce que le pain traditionnel français n'est pas du tout la baguette. La baguette, ça remonte au mieux aux années 30. Le pain traditionnel français, c'est le pain de 6 livres. C'est un pain qui se partage. Ce n'est pas un pain que chacun mange dans son coin. Ça n'existe pas. Le pain, c'est le partage, c'est la générosité, et c'est une histoire qui est vieille comme l'homme.
Alors Adriano Farno, ce qu'on entend et ce qu'on lit dans votre livre, c'est que derrière le pain et derrière vos combats à vous deux, on prendra le temps après de bien donner la parole à Benoît Ournon, qui sera notre représentant local, non pas de Pane Vivo, mais on va dire c'est presque un cousin, c'est que derrière le pain, quand on tire le fil, c'est une immense pelote donc, que l'on découvre, et se lancer dans la production artisanale de pain, c'est dans le fond poser un acte de résistance très profond quant à notre société, puisque c'est un modèle de résistance, vous venez de le dire, presque, enfin, d'abord agricole, industrielle et presque philosophique. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez ?
Oui, oui, oui. Mais après, l'artisanat, moi, j'aime pas ce mot-là parce que malheureusement, ce mot a été littéralement prostitué par la profession aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui leur reste. Ils sont très fiers, on fait le pain ici, derrière, voilà, c'est fait sur place, c'est artisanal. Non, bien sûr que non. 99% des pains spéciaux aujourd'hui que vous retrouvez en boulangerie, c'est des mix. C'est quoi un mix? C'est un sac de farine dans lequel il y a tout. Vous voyez, supermarché, on vend des mix pour faire les cookies, des mix pour faire les gâteaux au chocolat, des mix. C'est tout prêt, il n'y a plus qu'à rajouter l'eau. Et bien, c'est ça. C'est ça que vous retrouvez en boulangerie, et ils osent appeler ça de l'artisanat. Donc moi, je n'utilise pas le mot artisanat. Moi, je dis on est une boulangerie naturelle, et au lieu d'adopter les triptyques mortifères, blé moderne, moulu au cylindre métallique, fermenté à la levure infernale, nous, on utilise le triptyque qui donne la vie, qui est celui du blé ancien, et c'est un blé dur ancien qui peut convenir aussi aux hypersensibles au gluten, moulu à la lamelle de pierre qui nous définit en tant qu'homo sapiens néolithique, et surtout fermenté au levain naturel. Et c'est avec ce triptyque-là seulement qu'on peut faire un pain digne de ce nom. Après, artisanat ou pas, s'il est fait à un kilomètre de distance, je m'en fiche, parce que là, ça va être un pain qui va faire du bien.
Un pain bon pour l'homme, un pain bon pour l'homme et pour la planète. On aurait pu le faire dans l'autre sens, bon pour la planète et pour l'homme. Merci Adriano Farano d'avoir ouvert le bal de cette émission. Je rappelle le titre de votre livre à lire absolument, Je ne mangerai pas de ce pain-là. C'est paru aux éditions Rouergue. On fait une première pause musicale et puis on va continuer cette émission sur le pain, cet aliment, pas comme les autres.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le pain, cet aliment pas comme les autres, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église. En ce vendredi matin, était avec nous au début de l'émission Adriano Farano, donc auteur d'un ouvrage intitulé « Pour un pain qui fait du bien ». Pardon, « Je ne mangerai pas de ce pain-là » paru aux éditions Rouergue, j'étais en quatrième de couverture, et donc qui n'est pas artisan boulanger, mais qui a fondé une boulangerie naturelle à Paris, intitulée, appelée « Pané Vivo ». Et avec vous donc aussi, Benoît Ornon, vous êtes donc chef d'entreprise. Cette entreprise, donc propriétaire associé de la boulangerie Terramer, qui est à Toulouse. Peut-être avant qu'on essaie de voir quelle est l'aventure de Terramer et puis le processus de fabrication de votre pain, fabrication à l'endroit, on va dire, ou à l'ancienne, dans cette deuxième partie d'émission. Adriano Farano, est-ce un hurluberlu que l'on a sorti de notre boîte en ce vendredi matin? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos, et si oui, pourquoi?
Non, c'est pas du tout un hurluberlu, oui, je me retrouve à 100% dans ces propos, et même plutôt admiratif de la cohérence qu'il s'est imposée à lui-même et qu'il essaie de prouver à ses clients, consommateurs, ou dans son rôle de journaliste aussi. Et pour ça, c'est remarquable de faire retrouver ce bon sens, en réalité, dont je suis convaincu, moi, depuis plusieurs années. Mais effectivement, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément partagé par le grand public. Et voilà, et c'est l'occasion, à travers des personnes comme Adriano, à travers le travail que l'on fait, de rappeler ce qu'est le bon sens, de reconquérir notre souveraineté agricole, notre souveraineté alimentaire, et de montrer que, sans en faire le procès absolument, mais que notre modernité récente a eu un effet d'accélération sur... sur beaucoup de choses qu'on a perdu, ce bon sens.
Vous m'expliquez pendant la pause qu'avec vos parents, vous aviez ce débat. Peut-être, il l'a dit rapidement, dans notre imaginaire collectif, dans notre représentation, aujourd'hui, le bon pain, c'est le pain blanc. En fait, ça, pendant des siècles, ça n'a pas été le cas. Vous pouvez peut-être le rappeler et réexpliquer pourquoi.
Et oui, bien sûr, moi, je les taquine à chaque fois qui viennent me voir maintenant sur Toulouse. Ils ont 70 ans et donc ils sont nés, ils ont eu leur jeunesse avec un pain complet, un pain gris. Et en l'espace de deux générations, en réalité, on a imposé comme norme, le pain blanc, la baguette, comme disait Adriano aussi. La baguette, ce n'est pas du tout en effet le symbole de la boulangerie, de la boulangerie française. C'est aussi quelque chose de complètement récent, un peu avant-guerre pour le coup. Et le pain blanc, quelque chose d'encore plus récent, d'après-guerre. Et qui s'est imposé comme symbole de modernité, comme d'autres choses par ailleurs dans l'alimentation. Et du coup, voilà, mes parents y compris, pourtant, qui sont très attachés à une alimentation de qualité et qui sont autonomes sur une bonne partie de ce qu'ils mangent par le jardin et ce qu'ils produisent eux-mêmes.
Ils ont du mal à se le mettre en bouche.
Exactement, exactement.
Alors, Terramer, c'est une aventure qui a commencé en 2016, donc à Toulouse. Vous n'en êtes pas le fondateur, hein. C'était un certain Yannick Couffin et sa fille Sarah. Vous avez repris l'aventure en 2020 ou 2021 avec une certaine Soizic, qui est votre associée, c'est bien ça, hein.
Suzy,
pardon, excusez-moi, vous voyez, j'avais mal écrit avec une certaine Suzy. Expliquez-nous l'aventure de Terramer. Donc cette boulangerie où ce pain pas comme les autres sur Toulouse.
Oui, moi je suis en fait gérant et sociétaire du réseau Biocoop, sociétaire puisque c'est un réseau coopératif, depuis pratiquement 15 ans maintenant, donc sur Toulouse, avec deux magasins Biocoop.
Alors pas votre aventure à vous, mais peut-être l'aventure de Terramer, et puis on reviendra à la vôtre après. Quel était le projet des fondateurs quand ils se sont lancés, en fait?
Alors c'était un projet de reconversion de fin de carrière pour Yannick Couffin, et donc avec une sincérité pour aller vers un métier, pour le coup, artisanal, et sur un pain de qualité artisanale, avec les éléments de base dont rappelait aussi Adriano, c'est-à-dire une farine de qualité bio, donc en production bio, bien entendu, avec de l'eau, du sel et du levain. Donc fabrication de pain au levain, sur un atelier de production en vue de fournir des points de revente tels que des magasins bio, des magasins de circuit court ou des restaurants. Voilà, donc déjà dans l'ADN du créateur en 2016, un engagement, une orientation de qualité. Et bon, un projet de fin de carrière, donc avec la retraite qui a approché. Et
ça n'existait pas à Toulouse ?
Il y a si deux ou trois boulangers, un historique en boulanger bio, 100% bio. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important, que ce soit pour la boulangerie d'ailleurs ou pour d'autres types de production dites bio, d'être sur un engagement 100%. L'histoire de la mixité, hein, que ce soit en production agricole ou de transformation, mixité bio et non bio, je trouve que derrière, il y a un loup au niveau de la sincérité de l'engagement.
Alors, on trouve plein de choses sur votre site internet, puisque je n'ai pas eu le loisir, faute de temps, donc, de vous demander d'aller visiter votre atelier. Du pain fait à la main, le vin naturel, un pétrin à bras plongeants, vous allez nous expliquer ça. Si vous deviez nous emmener dans votre atelier et nous faire un peu le processus avec, peut-être pas toutes les étapes, mais les étapes clés, et on va dire les grandes différences clivantes avec la manière contemporaine qu'on a de faire nos baguettes.
Oui, bah ça passe par l'approvisionnement déjà des matières premières et la matière première, l'ingrédient de base qui est la farine, où on s'approvisionne auprès de deux moulins régionaux, le moulin de Montricou et le moulin des Rivières, donc qui sont des moulins bio. On s'approvisionne en farine bio qui sont issues de production régionale, donc c'est important.
Et, de blé ancien, donc ?
Alors, pas exclusivement de blé ancien, tel que c'était configuré en approvisionnement par Yannick Couffin, mais c'est bel et bien le projet d'approfondir l'engagement, la qualité du travail que l'on fournit, en allant davantage sur des approvisionnements en circuit court, donc auprès d'agriculteurs meuniers ou de paysans meuniers qui font eux-mêmes leur propre mouture, et d'aller, sans doute pas dans un premier temps, pas dans un premier temps, d'aller vers des céréales anciennes, mais d'en intégrer au fur et à mesure davantage. On a déjà dans la production un pain au rouge de Bordeaux, donc c'est une céréale ancienne qui est produite dans la région, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Tarn, et donc ça c'est déjà dans nos approvisionnements. Donc la matière première...
J'imagine que vous n'utilisez pas en tout cas des blés hybrides contemporains, c'est...
Alors pas les... Comme disait Adriano, hein, aujourd'hui, des blés qui sont issus d'hybridation, c'est la quasi-exclusivité de la production agricole. Il faut en avoir conscience, hein,
oui,
aussi.
On pourrait même tirer le fil en laissant entendre que parfois il est interdit de cultiver autre chose.
Ah, mais parfaitement, c'est parfaitement ça jusqu'à 2022, puisque jusqu'à tout à fait ces dernières semaines, et donc pour prise d'effet en 2022, j'espère, il était interdit de commercialiser des semences anciennes. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'absolument terrifiant et qui résiste au bon sens, puisque c'était des pratiques millénaires, c'est que les paysans, les agriculteurs ont été désemparés de leur capacité à commercialiser leurs propres semences produites. Et le vivant a été littéralement privatisé par quelques grandes firmes, puisque aujourd'hui, les céréales sont inscrites à un catalogue officiel, et on est obligé d'acheter, les paysans sont obligés d'acheter des céréales à ce catalogue officiel dans le cadre d'une commercialisation, d'un achat. Et donc, littéralement, le vivant a été privatisé, ce qui pour moi est parfaitement scandaleux. Oui, c'est vraiment source d'indignation.
Alors, on va reprendre le fil, en tout cas pour les auditeurs qui seraient surpris par vos propos. Je ne peux que renvoyer à la lecture de « Je ne mangerai pas de sopala » et multiples autres sources d'informations sur Internet. En fait, ce que vous dites, c'est vrai, aussi fou que ça puisse paraître. Et cette décision de la Commission européenne, c'est donc normalement, en effet, à partir de 2022, la Commission européenne a approuvé un règlement pour enfin libéraliser le commerce des semences anciennes.
Oui.
Donc, le moulin, les semences, et alors après la suite. Quand on voit sur votre site, pétri à bras plongeants, à la main, le vin naturel, quelles sont les autres étapes ?
Oui, alors, il y a une mécanisation, en effet, mais on essaie de la réduire au minimum pour ne pas... violenter le travail en fait de pétrissage en effet de la farine avec utilisation d'un levain, autre ingrédient, donc du levain naturel. Donc un minimum de mécanisation, il y en a une. Certainement qu'il y a des boulangers plus naturel encore que nous, sans doute Adriano et d'autres, qui sont sans mécanisation, ou quasiment sans mécanisation. Nous, il y en a une, mais on essaie de la réduire au minimum. Il y a le travail manuel, hein, c'est aussi la beauté de la gestuelle et du geste de boulanger par le façonnage.
Qu'est-ce que ça change qu'il y ait de la mécanisation ou pas? Est-ce que vous pouvez prendre l'exemple d'une étape où ça change quelque chose de le faire à la meule de pierre ou pas, de pétrir à la main ou pas?
Alors, pour la meule de pierre, c'est au niveau de la mouture
c'est du folklore,
de la
c'est la beauté du geste ou c'est plus que ça derrière? Il y a des considérations quant à la qualité du pain?
Non, de manière objectivée, là, pour le coup, je n'ai pas forcément les éléments parfaitement scientifiques ou objectivés, mais quand même, il ressort que pour avoir une alimentation vivante, je pense qu'il faut respecter le vivant. Et il faut respecter la simplicité des mécanismes du vivant, de la prolifération du vivant qui sont en jeu. Et pour une production comme le pain, plus il y a de mécanisation, plus ça vient violenter en quelque sorte ce vivant qui doit y avoir et qu'on espère avoir dans un produit fini.
Alors, je prends peut-être deux exemples pour vous aider. Quand on, je reviens un tout petit peu en arrière, pardon, on perd un peu les auditeurs, mais quand on moue le grain donc à la meule de pierre, là, il se passe quand même quelque chose de différent.
Oui, tout à fait.
Voilà, ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe de si particulier et qui justifie normalement d'essayer d'utiliser en priorité ce processus?
Oui, alors Adriano l'évoquait aussi, ça permet de mieux préserver des parties du grain qui sont essentiels d'un point de vue nutritionnel, notamment l'enveloppe et le son, et le germe également. Alors, c'est important de pouvoir ou de tendre vers une mouture à la meule de pierre avec des céréales bio pour conserver effectivement ces parties de la céréale, mais c'est absolument pas souhaitable sur des produits qui sont pas bio, puisque l'enveloppe de la céréale et notamment le son récupère et capte tous les produits chimiques et le poison. Donc je dirais qu'au contraire, il ne faut surtout pas faire de la mouture à la meule de pierre sur des céréales qui ne seraient pas bio, puisque ça serait porteur de poison à travers tous les produits chimiques qui auraient été utilisés auparavant. Mais pour des céréales saines et notamment bio, la mouture à la meule de pierre permet de préserver le maximum des qualités nutritionnelles du grain. Alors notamment par
cette mouture. Parce que dans le germe, c'est là qu'il y a toute la, entre guillemets, la...
Dans l'enveloppe, le son et dans le germe, en effet. Et le germe, comme on peut aussi le supposer, c'est là qu'il y a la matière vivante, c'est-à-dire la capacité de reproduction aussi du grain.
Le levain naturel aussi, vous pouvez les expliquer, en fait c'est vivant le levain.
Oui absolument, c'est de la farine et de l'eau et de la fermentation. Et donc
par le pain est un aliment vivant quelque part.
Absolument, absolument. Et on peut le constater d'un point de vue gustatif, hein, c'est-à-dire que le pain il n'a pas exactement la même saveur juste après sa cuisson, dans le cadre d'un moment propice à la consommation, il n'a pas la même saveur le lendemain ou le surlendemain. Et moi je le préfère... pas au petit épeautre que l'on a devant nous, je le préfère le lendemain ou le surlendemain, parce qu'il a continué à évoluer, les saveurs ont continué à se développer, les qualités organoleptiques ont continué à se développer. Donc en effet, c'est un produit vivant.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver, peut-être en savoir un petit peu plus sur vous, ce qui vous a emmené, vous avez commencé à le dire et je vous ai coupé, et c'était pour vous laisser un peu plus le temps, et puis essayer de voir, comme parfois dans ces émissions du vendredi, souvent c'est dans des émissions portraits, mais là on va dire on fait le portrait du pain à travers vous et Adriano Farano, comprendre un peu plus ce qui vous motive pour mener ce combat. On peut dire que c'est un combat, je rappelle le titre du livre d'Adriano Farano, « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions Rouergue.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le pain, cet aliment pas comme les autres, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité était avec nous au début de cette émission Adriano Farano, boulanger, fondateur de Pané Vivo, une boulangerie naturelle à Paris, auteur d'un ouvrage plusieurs fois cité, Je ne mangerai pas de ce pain-là, aux éditions Rouergue, et Benoît Ournon, artisan, alors on va dire plutôt chef d'entreprise, puisque il n'a pas fait la pub des artisans boulangers, Adriano Farano, chef d'entreprise, et vous êtes par ailleurs, donc, enfin, c'est-à-dire vous êtes propriétaire associé de la boulangerie Terre Amère à Toulouse. On va dire, on a entendu Adriano Farano faire une bascule des écrans à la boulangerie. On va dire que c'est peut-être encore plus choc quand on est journaliste et que son seul lieu, on va dire, de contact ou de résistance avec la de lien avec le réel, un des seuls lieux, justement, son pétrissage du pain quotidien. Vous, ça a été un itinéraire un peu différent, mais je voudrais quand même qu'on s'y arrête un petit peu. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aviez donc commencé par on va dire un chemin de vie plus classique. Vous avez travaillé à la FNAC un certain nombre d'années, pour ne pas la citer. Et puis après, vous êtes lancé un petit peu, dans l'aventure des magasins Biocoop en devenant gérant. Déjà, ce premier virage, comment vous l'expliquez ?
Bah, je l'explique en allant toujours vers plus de sens dans mes choix professionnels. Et ça, pour le coup, dès le départ, quand même, j'ai toujours essayé de mettre en adéquation mes valeurs, mes passions, mes engagements avec ma vie professionnelle et tout ce dont on parle depuis quelques mois avec toutes ces personnes qui sont dans des actifs qui veulent se reconvertir et qui veulent changer de vie professionnelle. Pour moi, dès la fin de mes études, les choses étaient claires. Il ne devait pas y avoir beaucoup de distance entre mes passions, mes engagements et mes choix professionnels, quitte à ce qu'ils ne soient pas forcément rémunérateurs. Mais en tout cas, pour moi, c'était évident. Donc ça a commencé effectivement par une première étape de vie professionnelle, de carrière. Et à 35 ans, j'ai voulu effectivement aller plus loin, où ce cheminement m'a amené vers l'alimentation, vers l'alimentaire.
Ça, vous êtes posé des questions sur l'alimentation, si j'ai bien compris. Vous avez eu cette expression quand on a préparé la mission, j'ai commencé à m'intéresser à la question de qu'est-ce qui se passe entre la fourche et la fourchette, c'est ça ?
Oui, c'est ça, de trouver un endroit où on pouvait le mieux relier la fourche et la fourchette, et une enseigne comme Biocoop, ou des magasins bio en tout cas, ça m'a semblé être vraiment le bon endroit, puisque dans l'ADN des magasins Biocoop, il y a vraiment l'exigence et la volonté de promouvoir l'agriculture biologique. Ça fait partie, c'est vraiment la première phrase de la charte de Biocoop, c'est pas d'encaisser le maximum de clients, mais c'est de promouvoir le développement de l'agriculture biologique dans un sens d'équité et de coopération. Et donc, c'était le lieu qui m'a semblé être le plus propice, le mieux exposé pour, lier la fourche à la fourchette.
Alors, pourquoi le sujet de l'alimentation était une question pour vous ? C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup découvert justement ce qu'il y avait derrière, dans nos assiettes, ou en tout cas tout le modèle agricole qu'il y avait derrière ? Vous étiez déjà sensible ?
Oui, moi j'avais quand même cette intuition que ça tournait pas très rond, et puis j'ai eu la chance quand même d'être issu d'un milieu plutôt rural et d'être en connexion avec la terre. Je pense que là aussi, notre modernité des quelques dernières dizaines d'années nous ont fait devenir hors sol. Voilà, hors sol. La majorité des Français, il y a encore trois générations, étaient paysans, étaient agriculteurs paysans. Et on s'est urbanisé, en effet, on a changé de métier, de secteur d'activité, et on est devenu hors sol. Et ça, cette impression-là ou ce sentiment-là, je l'avais quand même toujours en moi, quoi.
Alors, vous avez voulu aller plus loin, donc vous avez repris donc Terre Amère, et puis vous êtes lancé donc dans cette aventure. On imagine que ça a été un peu la suite naturelle, hein, quelque part. À la fin de cette émission, donc, je voudrais vous questionner un petit peu plus profondément, même si on l'a déjà entendu, sur ce qui vous motive. Souvent dans ces émissions un peu rencontres, alors là c'est autour du pain, mais c'est tout comme je le disais tout à l'heure, Je demande un petit peu aux invités ce qui fait qu'ils se lèvent le matin, quel est un peu le sens de la vie pour eux ou autre. J'ai retrouvé, on le cite souvent à cette antenne, une courte interview de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, grande figure, on va dire, de l'écologie en France, pionnier de l'agroécologie, chantre de la sobriété heureuse, que le pape François cite. C'est normal qu'on le cite souvent à cette antenne. Dans cette interview, entre autres, il dit « L'homme moderne est de plus en plus loin de la nature. Il y fait simplement quelques intrusions pour faire quelques glissades sur la neige ou aller s'exposer au soleil sur les plages. Mais tout le reste du temps, il est confiné dans un espace très restreint. Ce n'est pas étonnant que là, cela ait généré un mode de pensée limité. Vous vous retrouvez un petit peu dans ce modèle de société que prône Pierre Rabhi, dans cette sobriété heureuse. Quels seraient les mots que vous utiliseriez, peut-être vous ?
Oui, je me retrouve complètement, même si c'est un combat de tous les jours. Hein. On est bientôt proche de Noël, et Noël, alors c'est encore plus pour la communauté chrétienne, c'est une fête tout à fait particulière, mais c'est devenu pour la plupart des gens une accumulation de produits et de biens qui n'ont pas forcément de contenu et de sens. Mais je me retrouve donc c'est un combat de tous les jours d'aller vers une sobriété heureuse et je me retrouve complètement là-dedans. Et c'est vrai que cette reprise de Terra Meyer, de l'atelier Terra Meyer, correspondait aussi à un moment de cheminement personnel où je me disais, ça fait une quinzaine d'années effectivement que je suis dans un magasin Biocoop, à avoir des engagements écologiques, éco-responsables. Mais je pense en fait qu'on va pas assez loin, qu'on se trompe sur l'écologie. Alors on parle de préserver...
C'est-à-dire alors ?
On parle de préserver la planète, on focus beaucoup sur le réchauffement climatique. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a encore plus important, c'est de préserver le vivant. Voilà. Au-dessus même du réchauffement climatique et de la préservation de notre planète, pour moi, le cheminement m'amène à penser que ce qu'il y a d'encore plus essentiel, c'est la préservation du vivant et de la vie là où elle se trouve, c'est-à-dire à peu près partout.
Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la préservation du vivant ? Parce qu'on peut se dire que dans le fond, tout le combat écologique, toutes ces nouvelles entreprises ou boulangeries participent justement de la préservation, on va dire, de notre planète et puis de tout ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que vous entendez par vivant ?
Oui, pas forcément, hein, parce que c'est vrai, quand on parle de réchauffement climatique, on est beaucoup sur une approche qui est très technocentrée, voilà, avec des indicateurs, avec des classifications, avec des nomenclatures, et ça nous empêche quand même de voir ce qu'il y a d'encore plus essentiel. Et qui est le vivant, qui n'est pas simplement la biodiversité. Parce que même la biodiversité, quand on parle de biodiversité, c'est dans un cadre de quantifié. Voilà. Il y a tant d'espèces qui ont disparu. Il y a 70% des pollinisateurs dans les espaces protégés allemands qui ont disparu. C'est une catastrophe. Ça émeut beaucoup, effectivement. Mais je pense qu'il faut sortir de cette approche qui est très... scientiste en quelque sorte et qui est très dans la quantification.
Voilà, donc on entend que le choix de Terra Meyer, c'est aussi un choix quelque part un peu contemplatif. Il y a un autre sujet pour nous, pardon de tirer un peu la couverture à nous, mais le pape François a souvent cette expression « tout est lié ». Et dans le fond, l'écologie, quand on tire le fil jusqu'au bout, c'est une certaine Elena Lacida, qui est une théologienne chrétienne, qui dit que dans le fond, la question de l'écologie, c'est la question de la restauration du lien, tant à la création qu'à Dieu, pour nous les chrétiens, ou qu'aux autres. Vous me disiez aussi que ça, c'était important pour vous, c'est-à-dire comment dire, être commerçant. C'est presque dans l'étymologie justement autre chose que de vendre. Est-ce que vous pouvez nous le partager ?
Oui, commercer, c'est aussi mettre en relation des personnes à travers des sentiments ou à travers une forme spirituelle de mise en relation. Alors plus basiquement, au quotidien, on établit des liens entre des producteurs et des consommateurs et des clients. Et on est cet entre-deux pour établir ces liens, ce partage, prêcher la bonne parole, si j'ose dire, de l'écologie, de l'environnement, des produits bio. Et on est des lieux privilégiés pour ça. Et pas simplement des lieux de transaction économique ou commerciale.
Du pain ou de cette transition, vous diriez que quelque part le pain, c'est vraiment pour revenir peut-être sur les débuts des propos d'Adriano Farano dans son ouvrage, quand il nous aide à remonter au néolithique, si je ne me trompe pas, donc à l'époque de l'Homo sapiens, nous disant que en fait déjà l'homme était un cueilleur boulanger et que dans le fond le pain c'est le signe presque du début d'une forme d'humanisation, hein, c'est presque ce qu'on pouvait entendre. Vous avez aussi la conviction qu'il y a quelque chose qui se joue autour du pain, et si oui, pourquoi ?
Oui, aussi. J'ai exactement cette conviction-là, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est aussi un cheminement qui permet de renouer avec notre humanité civilisée, en quelque sorte. Quoi. Puisque je pense que le pain, ça a correspondu à la sédentarisation, le pain à travers l'agriculture maîtrisé ou domestiqué, en tout cas les débuts de la domestication de l'agriculture, ça a correspondu aussi au début de la civilisation. Alors Adriano fait remonter ça même au-delà de moins 10 000, donc 14 000 peut-être. Peut-être qu'il n'y avait pas encore cette sédentarisation humaine à cette époque-là, on était encore des chasseurs-cueilleurs. Mais en tout cas, il y a une correspondance ou une simultanéité entre effectivement la civilisation, la constitution de groupes humains en village ou en ville, et l'apparition de l'agriculture et quasi immédiatement de la production de pain. Oui,
et étonnamment, ce serait par là que pourrait commencer une forme de réhumanisation d'un modèle agricole et industriel. C'est ce qu'on entend derrière ce que vous dites.
Oui, absolument. Et puis, alors, voilà, je tire aussi un enseignement des premières étapes, les premières phases, les premiers jours de l'apparition de la crise Covid, le lendemain du discours d'Emmanuel Macron sur le confinement. On sait tous, on a tous ces images à télé ou ces retours d'expérience de magasins qui ont été dévalisés d'un certain nombre de produits, mais plus essentiellement de farine, en réalité. Et ça, comme parfois on peut le constater dans le commerce, ça s'est passé de manière totalement spontanée, partout, dans tous les magasins de France, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Brest, on a été dévalisé en farine. Mais avant même que le mécanisme des réseaux sociaux de communication se mette en place, en fait. Comme un inconscient collectif, qu'il y avait une nécessité à retrouver ce qu'il y avait de plus profond et de plus ancien dans l'humanité, dans son humanité, dans sa propre humanité. Et voilà, moi, c'est une interprétation que je fais, en tout cas un regard que je porte, et que je ne m'explique pas autrement, parce que ça s'est vraiment produit de manière totalement spontanée, collectif, généralisée, partout sur le territoire.
Eh ben, merci beaucoup, Benoît Ornon, d'être venu au micro de Vivante Église pour nous parler du pain. Voilà, s'il sort quelque chose de grand de ce moment de Noé, comme dit le pape François, de cette crise Covid. Et si tout à chacun nous nous ruons sur la farine, eh bien commençons par le pain, ce n'est pas les chrétiens qui diront autre chose. Un grand merci à vous. Je rappelle une dernière fois le titre du livre d'Adriano Farano, « Je ne mangerai pas de ce pain-là », c'est paru aux éditions Rouergue. On peut vous retrouver, vous, à Toulouse et région toulousaine élargie. Hein, Terre-Amère, ce sont des pains qu'on peut retrouver quoi, dans les biocopes de la région, c'est ça ?
Oui, enfin, des magasins biocopes,
de la métropole,
voilà, absolument, de la métropole, des magasins de producteurs, de circuits courts, certains restaurants également.
Voilà. Voilà. Et le dépôt est Cocorico, juste à côté de chez nous, à côté de Saint-Cyprien, en allant vers le pont Saint-Pierre. Et puis Adriano Farano me demandait de faire un peu de pub aussi, Pane Vivo, vous pouvez aussi en commander et il peut vous être livré chez vous, panevivo.com. Voilà, un grand merci à tous les deux. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je ne vous donne pas rendez-vous lundi. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous dis au revoir. C'est un adieu abrupt, j'en conviens, sans préambule ni cérémonie, j'en conviens. Mais voyez-vous, la vie moderne est ainsi, et ce même parfois dans la vie de l'Église. Aussi ridicule que cela paraîtra à certains, pour vous, j'ai lutté, j'ai prié, j'ai pleuré. Avec vous, j'ai été témoin pendant 6 années. Que Dieu est depuis toujours et pour toujours un Dieu parfois si révoltant, si révoltant qu'il se laissa clouer sur une potence. En janvier, je serai directeur d'une communauté Simon de Cyrène, communauté parente de l'Arche de Jean Vanier, mais accueillant des personnes cérébro-lésées. Je vous demande pardon de vous quitter comme ça, de vous lâcher en race campagne. J'aurais aimé faire autrement, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. À vous tous, en mon nom, en celui de Sabine Caz, je voulais vous dire merci. Toute vie est une histoire sainte, une terre sacrée, toute histoire est sacrée, la vôtre aussi. Adieu, oui, adieu, à toujours.